Zjednoczenia Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Reskrucia Europej.
Stavrodromit z Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles. Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Cela fait 6 mois que l'Espagne est à la recherche d'un gouvernement introuvable. Longtemps modèle de stabilité, les élections de décembre dernier ont mis fin au bipartisme, parti populaire versus parti socialiste, au profit d'une fragmentation politique et d'irruption de 2 petits nouveaux, à gauche Podemos et au centre droit Ciudadanos. Pendant 6 mois, les responsables politiques ont discuté, négocié, mais l'intransigeance et les querelles d'ego ont été les plus fortes. Résultat, aucune coalition n'a pu voir le jour et les Espagnols vont devoir retourner aux urnes le 26 juin prochain, avec un risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors comment l'Espagne est-elle devenue ingouvernable? Quel est l'état d'esprit des Espagnols face à une classe politique qui a failli? Où en sont les velléités indépendantistes des Catalans et des Basques? La situation économique s'améliore-t-elle vraiment? Voilà quelques-uns des thèmes que nous allons aborder avec nos invités. Je vous les présente. Buenos días, bonjour Aurora Minguez.
Buenos días, bonjour.
Vous êtes la correspondante à Paris de la RNE, la Radio Nationale Espagnole. RNE en espagnol, on va dire comment?
C'est la radio étatique, c'est comme l'équivalent de vous.
Oui, non, mais RNE en espagnol, avec l'accent, ça va dire...
Radio Nationale d'Espagne.
Ah, bah, ça change quand même les choses. Dans quelques instants, nous serons rejoints par José Roras. Il est le secrétaire général du PSOE, c'est-à-dire du Parti Socialiste. Il est le secrétaire général à Paris. Chavis Millet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste correspondant en France pour le journal barcelonais El Crític.
Tout à fait.
Ça veut dire que vous êtes catalan.
Oui, certainement, oui.
Et vous êtes critique de l'Espagne ou critique en général?
En général.
En général, vous êtes très critique. Et à tour, nous rejoignons Héloïse Ney, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Tours. Vous avez publié récemment Podemos, de l'indignation aux éditions du Petit Matin. Merci à France Bleu Touraine de vous accueillir dans un de ses studios. Alors, Aurora Minguez, je n'ai pas vous demandé de nous raconter l'histoire contemporaine de l'Espagne, mais en 1975, lorsque le dictateur Franco meurt, 2 partis politiques occupent principalement l'espace politique laissé vacant. À droite, l'Alliance Populaire qui deviendra le Parti Populaire, et à gauche, le PSOE, le Parti Socialiste. Ces 2 grands partis, tous 2 très européens, on peut le signaler, ont dirigé le pays en alternance jusqu'à l'an dernier, avec globalement une assez grande réussite. Peu de pays ont autant changé que l'Espagne en 40 ans, et il a fallu la crise de 2008 pour que la situation se dégrade fortement et rapidement. En quelques mots, que s'est-il passé?
Bon, plusieurs choses. La chose plus importante, est-ce que les 2 partis plus grandes ont vraiment raté à comprendre qu'est-ce qu'on voulait en Espagne? Le Parti Socialiste a souffert, comme la plupart de la gauche européenne, une crise formidable d'identité, quand on a décidé de laisser le socialisme pur, parce que c'était quelque chose, on disait, ancien, sans aucun futur, il fallait être social-démocrate, ou quelque chose entre la droite et la gauche, au milieu. Et ça, vraiment, ça a été une cause grave de déception parmi les Espagnols qui avaient mis ses espoirs dans cette gauche moderne qui était l'alternative au franquisme. Du côté de la droite, le Parti Populaire a beaucoup changé, a beaucoup évolutionné dès ses origines, marqué par le franquisme, jusqu'à devenir un parti européen. Mais ce parti a boycotté pas mal la modernisation de l'Europe. Un de ses leaders les plus importants, José María Aznar, a été vraiment la cause fondamentale de cette crise économique, parce que c'est lui qui a flexibilité la possibilité de bâtir des appartements partout. Il y avait une loi très claire où on pouvait faire des appartements et des grands bâtiments et où on ne pouvait pas faire. Et José María Aznar, qui était le représentant du libéralisme espagnol, a dit non, maintenant on peut faire partout. Alors on a commencé cette folie des constructions partout.
C'est-à-dire des dizaines, des centaines, des milliers d'appartements qui n'ont jamais trouvé de locataires ou de propriétaires.
Ou bien il y a eu des gens qui ont acheté des appartements, mais finalement ils ne sont pas été capables de payer. Et comme on n'a pas changé non plus le marché du loyer, qui en Espagne est très, très limité, alors les gens étaient obligés d'acheter parce que le loyer c'était beaucoup plus cher que demander un crédit et payer par mois après mois. Alors, en plus, avec cette modernisation de l'Europe et de l'Espagne aussi, il y a eu un afflux d'argent formidable qui n'est pas toujours fini dans les...
dans les bonnes poches.
Dans les bonnes poches, mais dans des poches privées, et avec bon, des scandales assez forts.
Ça s'appelle la corruption.
Exactement, ça s'appelle la corruption, qui est, à mon avis, maintenant, des problèmes les plus importants en Espagne. Une classe politique complètement discréditée, qui n'a pas été capable de finir avec la corruption, qui au contraire a fait, disons, a fermé les yeux à voir tellement des focus des corruptions parmi leur propre parti. Et les cas du Parti populaire est vraiment un scandale. C'est le seul parti que je connais en Europe qui est considéré par la justice comme une organisation criminelle, qui a financé ses projets et son passé économique par une secondième casse. Enfin, il y avait des d'argent noir partout. Ils ont financé, par exemple, leur propre siège à Madrid avec de l'argent qui n'était pas clair. Et je pense que les Espagnols, ils ont vraiment marre. Ils ont marre de tout. Marre de politiciens, marre de la corruption, marre de cette... vide des moralités. Il y a une chose claire, c'est il y a une demande des nettoyages ethniques.
Il y a une demande politique.
Il y a une demande absolue des renaissances morales. Mais je ne sais pas si les nouveaux partis sont vraiment dans une situation.
Alors, Elosina, c'est un peu comme ça qu'est né Podemos, hein, avec l'idée d'avoir un nouveau parti à la gauche qui soit un petit peu, je dirais, plus frais politiquement. C'est un peu l'histoire de Podemos à partir des indignés.
Oui, effectivement, c'est vrai que ce tableau-là, assez noir que vous nous faites du système politique espagnol, c'est ce qui a mis le feu aux poudres pour lancer le mouvement des indignés. Hein. C'était un des principaux slogans, le fait « ils ne nous représentent pas ». C'était principalement à destination de cette caste politique discréditée, très corrompue. Et donc, Podemos peut vraiment se comprendre en fait dans la continuité, hein, ce mouvement des indignés, même s'il n'est pas directement issu du mouvement, dans le sens où ses fondateurs, ils étaient politisés bien avant. Et en fait, ils ont vu dans le mouvement des indignés plutôt l'occasion pour développer un projet auquel ils avaient déjà réfléchi. Mais c'est finalement, c'est cette crise hein, du système politique en Espagne et cette perte de confiance dans les deux principaux partis au pouvoir qui a laissé un vide, quelque part, hein, dans l'espace électoral. Et ce vide, c'est notamment Podemos, au départ, qui va essayer d'en partie l'occuper.
Et avec un certain succès, on va le voir dans un deuxième temps.
Tout à fait,
Rosé Rojas, est-ce que c'est l'usure du pouvoir, la corruption, qui explique la perte d'influence des deux grands partis, le Parti Populaire et Aurora Mingas vient d'en parler, et du PSOE, le Parti Socialiste Espagnol? Qu'est-ce qui explique un peu ce déclin du Parti Socialiste en Espagne?
Déclin, en tout cas, je ne sais pas si c'est au niveau des idées vraiment ou au niveau de l'attrait électoral que peut avoir le PSOE. C'est vrai qu'il y a une l'usure de pouvoir, elle joue, je pense, pour tous les partis qui sont au gouvernement pendant très longtemps. Je crois que les électeurs en Espagne, comme les électeurs en général, ont parfois la mémoire un peu courte parce qu'ils ont tendance à oublier tous les aspects positifs de la gestion d'un parti au pouvoir pour ne retenir que les derniers éléments et évidemment les éléments les plus négatifs ou ceux qui leur paraissent les plus négatifs. Donc usure de pouvoir probablement. L'attrait des nouveaux partis en Espagne comme Podemos, comme Ciudadanos, en fait, vient notamment du fait qu'ils promettent énormément de choses, peut-être beaucoup trop, parce qu'on commence à se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas aussi facile qu'ils l'avaient annoncé, les dirigeants de Podemos et de Ciudadanos. Ils promettent énormément, ils n'ont pas de bilan à défendre ou de bilan à justifier, et ils viennent avec cet argument qui est un peu l'argument classique de la publicité, c'est-à-dire, on est nouveau, on vient d'arriver, on ne fera pas du tout comme les autres. Or, depuis qu'ils sont arrivés au Parlement, je fais plutôt référence à Podemos qu'à Ciudadanos, on voit qu'en fait, ils ont un fonctionnement, par certains côtés, très novateur. C'est notamment Podemos, c'est vraiment la culture du spectacle. Ils arrivent dans le Parlement, et on a l'impression qu'ils sont encore dans une assemblée générale à l'université.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cravate, ils sont pas complets,
etc. Ce n'est même pas une question d'apparence. À la limite, la cravate, maintenant, c'est quelque chose qui se voit de moins en moins souvent, y compris même chez les hommes politiques, y compris même chez les leaders du Parti Socialiste, comme Pedro Sánchez. c'est pas une question de cravate ou une question de cheveux rasta, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est une question de comportement, y compris au niveau des institutions. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à comprendre que la prise du pouvoir ou en tout cas l'accès aux institutions démocratiques telles que le Parlement, ce n'est pas une fin en soi. Ils se prétendent représenter le peuple, mais ils se comportent à l'Assemblée, enfin le Congrès des députés, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, un petit peu comme s'ils étaient des étudiants en salle de cours. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est pas que certains aient les cheveux rasta, c'est pas que l'une des dirigeantes vient avec son bébé au Congrès des députés uniquement pour un effet médiatique qui a très très bien marché d'ailleurs. Ils savent très bien utiliser les médias, les gens de Podemos.
Ça fait une belle image télé.
Ça fait une belle image télé, mais ça ne fait que ça, parce que du point de vue du signifiant ou de la signification d'un tel geste, même les dirigeants d'Izquierda Unie, des communistes, disaient ce qui aurait été novateur, c'est que ce soit le père qui vienne avec le bébé, pas la mère, parce que ça fait quand même très patriarcal. Bon. L'important, c'est que quoi? C'est qu'on a constaté que, effectivement, on jette la pierre sur le bipartisme traditionnel en Espagne, le PP, le PSOE, voilà, c'est l'argument récurrent maintenant, on dit, tout est de leur faute. Comme si il n'existait qu'eux, en oubliant que le PSOE est quand même à l'origine de la plupart des grandes lois sociales. Ils ont effectivement, les socialistes étaient très longtemps au pouvoir, et on peut pas dire que ils aient tout fait mal. Ça, c'est pas une simplification, c'est une caricature, et c'est totalement mensonger, parce que toutes les grandes lois sociales, les lois sur l'éducation, l'université, les lois sur la santé, les dernières lois même de Zapatero sur l'égalité femmes-hommes, sur les mesures contre la violence conjugale, tout ça, ce sont des mesures prises par le gouvernement socialiste. Donc, on peut pas dire que tout est négatif, très loin de là.
Chavi Espinet, d'un point de vue catalan, comment on regarde un peu ce qui se passe à Madrid?
Alors, avant d'aborder le point de vue catalan, je voudrais revenir en fait à cette analyse qui a été faite sur la crise espagnole dernières années. Je pense que le mal, je peux m'exprimer ainsi, vient d'une accointance entre classe politique et économique en Espagne, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui vient en fait de cette fermeture en faux du processus de transition démocratique qui a eu lieu fin 1970 et qui a conditionné les 30 dernières années en fait de vie politique espagnole. Dans ces cas-là, en fait, le PSOE partage une bonne partie de la responsabilité, a été un des piliers du régime, de cet régime-là, et du bipartisme entre, donc, l'alternative, un social-libéralisme à la sauce européenne, comme il y en a autant, et de l'autre côté, une droite dure décomplexée qui revient en force de 96. Et tout ceci explique ce enchantement, ou si vous voulez, en fait, déception des classes populaires espagnoles, en particulier, vis-à-vis, en fait, de ces régimes qu'ils vivent comme une vraie dépossession démocratique. En même temps, on n'a pas mentionné aussi, il y a un facteur très important, qu'il s'agit d'un facteur générationnel. Vous avez la génération, en fait, de nos parents, qui était marquée, plus ou moins, mais largement, par une certaine peur du politique.
Et cela vote, en gros, pour les partis, on va dire, traditionnels, le Parti Populaire ou le Parti Socialiste.
Le sondage démontre, en fait, que l'électorat, en fait, les plus âgés vote PP ou PSOE.
Et puis les plus jeunes votent plutôt
ceux
Podemos.
Ceux qui sont nés, enfin, 70, années 80, votent Podemos.
Ou Ciudadanos,
un électorat, Ciudadanos, on va en parler après, si vous voulez bien. Donc, c'est aussi, parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, c'est aussi un électorat qui est davantage urbain, davantage diplômé, et qui n'a pas vécu cette peur, cette méfiance, vis-à-vis de politique, de la génération précédente, marquée par 40 ans de Franco, 40 ans presque de maréchal Pétain, pour que l'auditeur en fait français francophone puisse en faire une idée. Donc on est là. Il y a d'un côté en fait cette crise qui a mis en évidence tous les travers, tous les défauts de ces politiques, et en même temps c'est une nouvelle génération espagnole, plus formée, plus urbaine, plus ouverte sur l'international, qui arrive sur scène et qui démontre une réponse politique différente et autre à celle de ses aïeux, de leurs aïeux.
Alors aujourd'hui, en tout cas au Parlement espagnol, non plus deux partis, mais quatre partis principaux. Il y en a encore quelques autres. Évidemment, les indépendantistes et quelques autres encore, enfin quatre partis principaux, et ça change un petit peu la donne. Alors on va faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Nathalie Kant.
Bonjour Daniel.
Il y a un papier paru dans Courrier International qui a retenu votre attention, c'est le site El Espagnol qui l'a publié, et il est incendiaire sur la classe politique espagnole, incapable de former un gouvernement en 5 mois, ce qui va obliger les Espagnols, on l'a déjà dit, à revoter le 26 juin prochain.
Oui, exactement, cet article de El Espagnol qui décrit l'attitude des 4 candidats depuis les élections de décembre. Ils parlent d'égoïsme et ils parlent de manque de hauteur de vue de ces dirigeants politiques.
Et personne n'est épargné.
Personne. Il retrace les portraits un par un. Il parle de Mariano Rajoy, qui est le chef du Parti Populaire, et jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 5 mois, chef du gouvernement, qui veut être le seul Premier ministre au risque que sa stratégie fasse basculer son parti dans l'opposition. Après, il y a Pablo Iglesias, mouvement anti-austérité Podemos, qui veut supplanter le PSOE, d'après cet article de l'Espagnol, et incarner la gauche. Et il dit même que les exigences démesurées montrent qu'il n'a jamais eu l'intention de soutenir le gouvernement socialiste. Il y a Pedro Sánchez, qui est le chef du Parti socialiste, qui est cohérent avec l'accord signé avec Ciudadanos, parti de centre-droite, et qui l'a positionné le parti au centre en matière économique et modèle territorial. Rappelons qu'il y a la situation avec la Catalogne, c'est pour ça qu'on parle de territoire. Et Albert Rivera, qui est le leader de Ciudadanos, ce parti de centre-droite nouveau parti, qui est celui qui s'est le plus démené pour une sortie de crise cohérente en s'alliant avec le PSOE et en proposant un premier ministre de consensus.
Mais ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi, donc il va y avoir de nouvelles élections le 26 juin. Et l'idée, c'est que, bon, d'après cet article, c'est pas tout le monde porte la même part de responsabilité, même si ça montre qu'il y a un fiasco. Et c'est vrai, il va y avoir de la fatigue de la part des électeurs. Revenir aux urnes, c'est pas facile, mais l'idée, c'est essayer de voter en ayant ça en tête. Qui a fait des efforts et qui ne l'a pas fait?
Alors, Raminguez, ils sont tous coupables, ces hommes politiques espagnols?
Bon, d'une certaine manière, oui. C'est une question de proportion. Je pense qu'ils ont une petite responsabilité parce que, du point de vue citoyen, dans les dernières semaines, dans les derniers deux mois, on a vu le vrai visage de politiciens espagnols. Et c'est un visage, de mon point de vue, assez triste, parce qu'aucune a été à l'auteur des expectatives citoyennes. Et Mariano Rajoy, le premier ministre, a donné, disons, son côté plus lointain, quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui laisse les autres politiciens essayer de faire des coalitions, s'entendre, se disputer, enfin, s'insulter sans arrêt. Et le leader du PSOE, du Parti Socialiste, a donné aussi une image assez pauvre de lui-même, parce qu'en plus il est assaillé par les autres, disons, chefs régionaux du parti.
La baronnie.
La baronnie, exactement. Et en plus, lui, bon, il est quelqu'un qui... D'après mes informations, il est quelqu'un qui a toujours beaucoup attendu de son aspect physique, parce qu'il est quelqu'un du point de vue...
On peut dire beau gosse.
Beau gosse, oui, tout à fait. Et il a eu toujours beaucoup de succès avec n'importe quelle chose il attendait. Mais c'est vrai que l'image est importante, mais il faut présenter des choses plus claires et plus concrètes. Et surtout assumer aussi que pendant le période de gouvernement du PP, le Parti Socialiste a été une position très faible. Très faible et très confuse.
Et puis il y a eu l'irruption de Pablo Iglesias de Ciudadanos, de Podemos, pardon, et Pablo Iglesias de Ciudadanos, de Podemos, pardon, qui lui aussi s'est montré finalement un homme politique presque comme les autres.
Oui, vraiment, on a découvert cette nouveau caudillo à l'espagnol. Quelqu'un qui a joué vraiment, parce qu'il est né dans la télévision. Alors, il n'est pas un politicien normal. Il est quelqu'un qui vraiment, il a fait ses premières pas dans un studio de télévision, qui domine très bien le langage audiovisuel et qui, malheureusement, il a bien fait les diagnostics de quels sont les problèmes de l'Espagne, mais les solutions, ils sont tous assez difficiles à prendre. Les problèmes pour tous les partis espagnols, c'est de dire, est-ce qu'on va obéir à l'Europe après ou pas? Est-ce qu'on va rompre les pactes de stabilité et de croissance qui viennent de Bruxelles et surtout qui vient de Berlin? Parce qu'on sait déjà, Bruxelles a dit, nous devons continuer à faire des efforts, parce que la situation, la dette étatique a encore augmenté. Le déficit est toujours beaucoup plus de ce qu'il faudrait être. Et pour, disons, être admis toujours dans les clubs des bons élèves de Mme Merkel, il faudra faire des réformes et ça va coûter beaucoup d'argent. Et pour les partis, sauf pour le Parti populaire, qui est clair qu'il va tout obéir, pour les autres partis, la question est tout simplement de dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la réforme? On va obliger les gens à se serrer encore plus la ceinture? Ou bien, comme Pablo Iglesias dit, on va dire non à l'Europe en sachant que son ami Tsipras, en Grèce, avait dit non et finalement a dit
il
oui
a
et encore
oui,
plus. Il y a plus de doses d'austérité.
Alors, l'Espagne est-elle ingouvernable et comment le pays peut-il évoluer? On va faire une courte pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières infos, à tout de suite.
RFI Pejske.
Cruzement toute Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel. Victor Ouvrard.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Cela fait 6 mois que l'Espagne est à la recherche d'un gouvernement introuvable. Longtemps un modèle de stabilité, les élections de décembre dernier ont mis fin au bipartisme, parti populaire versus parti socialiste, au profit d'une fragmentation politique et l'irruption de deux petits nouveaux, à gauche Podemos et au centre droit Ciudadanos. Pendant 6 mois, tous les responsables politiques ont discuté, négocié, mais l'intransigeance et les querelles d'égo ont été les plus fortes. Résultat, aucune coalition n'a pu voir le jour et les Espagnols vont devoir retourner aux urnes le 26 juin prochain, avec un risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous représente les invités qui ont bien voulu nous rejoindre. Aurora Minguez, elle est la correspondante à Paris de la RNE, la Radio Nationale Espagnole. José Roras nous a rejoint, il est secrétaire général du PSOE à Paris, le Parti Socialiste. Xavi Espinet, il est journaliste correspondant en France pour le journal barcelonais Elle Critique. Et Héloïse Ney, sociologue, maître de conférence à l'Université de Tours, qui a récemment publié Podemos de l'indignation aux élections aux éditions du Petit Matin, elle est en ligne de Tours. Alors, la nouveauté au lendemain des élections de décembre 2015, c'est à la gauche, de la gauche, que cela se passe. Et la nouveauté, c'est l'accord conclu le 9 mai dernier entre Podemos et le petit parti Izquierda Unida, la gauche unie, qui regroupe principalement les anciens du Parti communiste espagnol, et qui ont formé une alliance qui pourrait reléguer le Parti socialiste à la troisième place. Résumer la situation à gauche avec Maria Afonso.
Les élections du 20 décembre dernier ont fait émerger notamment le parti de la gauche anti-austérité Podemos, bousculant l'échiquier politique espagnol. Pablo Iglesias, le leader de Podemos, a réussi à imposer son parti en à peine un an. Pour s'assurer de devenir la première force politique de gauche, il a conclu le 9 mai un accord avec le parti Izquierda Unida, Gauche Unie, l'héritier du parti communiste. La nouvelle alliance, Unido Podemos, s'est mise d'accord sur un programme commun comptant 50 mesures, parmi lesquelles une réforme fiscale, un revenu minimum garanti ou encore l'abrogation de la réforme du marché du travail réalisée par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. Selon Alberto Garzón, le leader de Izquierda Unida, il s'agit de former une coalition gouvernementale.
Devant la possibilité, et que nous considérons comme une mauvaise nouvelle, que le Parti Populaire et Ciudadanos puissent gagner les élections du 26 juin, la meilleure alternative, c'est que cet accord se concrétise par une coalition et qu'elle chasse le Parti Populaire et porte au pouvoir la coalition Unidos Podemos.
L'alliance Unido Podemos donne une chance nouvelle au chef de file de Podemos, Pablo Iglesias, qui entend bien devenir le prochain président du gouvernement espagnol, comme il l'a annoncé lors d'un meeting en avril dernier.
Il faut prendre de l'avance, et pour prendre de l'avance, personne n'est de trop. Si nous sommes appelés à mener ce changement, nous devons être généreux et généreuses. Moi, vous m'avez demandé d'être votre secrétaire général, et je serai enchanté d'être le président du gouvernement. Mais le plus important, c'est que le pays puisse avoir un gouvernement décent et un gouvernement de changement. Parce qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, vous avez démontré que Podemos, ce n'est pas nous, Podemos, ce n'est pas les mandats, Podemos, ce n'est pas ses dirigeants, Podemos, c'est les gens, Podemos, c'est les gens qui ne se laissent pas tromper et qui veulent rendre la dignité à notre pays.
Aurora Minguez, est-ce que c'est une alliance qui peut un peu changer la donne sur le plan électoral? Alors, il faut préciser que la loi électorale en Espagne favorise les grands partis, ceux qui arrivent à avoir au moins 15% de l'électorat, des votes. Et évidemment, en ayant cette alliance, ça risque de, cette nouvelle alliance qui s'appelle Unidos Podemos, risque évidemment de placer Pablo Iglesias en deuxième position et il risque de doubler le Parti Socialiste. C'est une hypothèse qui vous paraît crédible?
Ça fait frissonner pas mal de gens en Espagne aussi.
Dans quel sens frissonner?
Ouais, ça, je dirais, ça fait peur. Ça fait peur parce que bon, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec Podemos. On a vu aussi dans ces derniers mois qu'une chose, c'est ce qu'on promet et une autre chose, c'est la réalité. Et ça change d'une façon parfois radicale. Et en tout cas, c'est clair qu'il pourrait arriver quelque chose déjà connu et déjà vu, et que les partis socialistes gagnent les élections, mais qui ne va pas être le parti qui va gouverner.
Le parti socialiste, vous dites?
Le parti populaire va gagner les élections, mais l'alliance des gauches avec Podemos pourrait vraiment obtenir une quantité de votes assez importante, et surtout s'ils font des coalitions avec les partis le parti catalan, le parti de gauche nationaliste et tout ça. Et malheureusement, le parti socialiste deviendrait seulement le troisième dans cette alliance qui est une possibilité. Mais je dis toujours, il faut faire attention parce que la question fondamentale sera de dire qu'est-ce qu'on fait avec les prochains budgets? Qu'est-ce qu'on fait avec l'austérité? Qu'est-ce qu'on fait avec les réformes qui ont fait beaucoup de mal en Espagne, qui semble inexorable, mais on voit ici en France comme les gens, ils sont vraiment contraires à cette réforme de la loi du travail qui, en Espagne, a été acceptée sans aucune proteste.
Alors, on va donner la parole à Eloïse Ney dans un instant pour savoir comment elle voit l'évolution de la situation. Mais, Rosé Roras, est-ce qu'il y a un vrai risque qu'avec cette alliance nouvelle de la gauche, que effectivement le Parti Socialiste arrive en troisième position, ce qui changerait évidemment un peu plus le paysage politique en Espagne?
Disons que, comme toujours, les sondages disent une chose et les résultats électoraux, parfois et très souvent, disent autre chose. Non, la vraie question est de savoir ce que va faire Podemos avec ses nouveaux amis de Izquierda Unida. Moi, je pense qu'il y a un vrai danger d'escroquerie électorale au jour d'aujourd'hui, parce que les dirigeants de Podemos l'ont démontré ces derniers mois. Leur priorité, c'est pas du tout de représenter les indignés, de représenter les classes populaires. Ça, c'est un mythe, parce qu'ils sont en train de construire une légende, mais ils l'ont fait très intelligemment. Il faut reconnaître, ils manipulent très très bien les médias. Ils se servent beaucoup d'eux. La vraie réalité, c'est ce qu'on a vu au Parlement dans cette très courte législature qui a abouti à un échec. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants de Podemos qui disent, qui tiennent un discours et qui ensuite font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils disent en permanence, nous on n'est pas pareil que les autres, ou les deux vieux partis traditionnels en Espagne, ils sont pas beaux, ils sont méchants, ils sont accrochés à leurs privilèges. Et on a vu débouler au Parlement des députés de Podemos qui ont essayé d'accaparer non seulement l'attention médiatique en faisant des coups médiatiques à intervalles réguliers, à la fois en proposant déjà une liste de ministres alors qu'il n'y avait aucun accord en vue, donc ce qui montre bien qu'ils sont très intéressés par le pouvoir et les postes ministériels, avant même d'arriver à un accord sur des propositions avec le Parti Socialiste, alors que le Parti Socialiste a eu toujours la démarche inverse en disant, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois arrivé au Parlement, on a une responsabilité à l'égard des électeurs. Et notre responsabilité, c'est de proposer des solutions. Pas de dire un tel sera ministre, pas de dire Pablo Iglesias sera vice-premier ministre et en même temps contrôlera la police, la justice. Enfin, on a l'impression que ce qui intéresse aujourd'hui Pablo Iglesias et ses amis, c'est la prise de pouvoir. Un peu d'une façon, selon les vieilles théories léninistes. Pas du tout, parce que Pedro Sanchez a donné exactement l'image de quelqu'un qui veut construire, non pas un gouvernement, mais qui veut construire un gouvernement sur des propositions, ce qui est très différent. Et c'est ce qu'il a proposé au Parlement. Aujourd'hui, on peut critiquer, c'est vraiment à la mode, c'est la tarte à la crème de dire, oh là là, tous les hommes politiques, ils sont méchants, tous les hommes politiques sont ambitieux et tous les hommes politiques veulent s'accrocher au pouvoir. Moi, franchement, il faut quand même être objectif, il faut quand même être observateur de ce qui s'est passé pendant ces 5 mois. Il y a deux partis qui ont pris le risque de se présenter à l'investiture, c'est effectivement le PSOE et Ciudadanos, qui n'ont pas des idéologies très proches, effectivement, mais qui se sont dit, on est à une époque où les électeurs espagnols attendent quelque chose, et ils attendent qu'on bouge les choses. On a souffert de 4 ans de gouvernement de Mariano Rajoy. Tout à l'heure, j'étais très surpris qu'on dise, il y a une réforme de la loi, du code du travail, pour simplifier ce qui n'a eu aucune protestation, mais enfin, c'est fou. Non, je crois que soit vous n'avez pas été en Espagne récemment, soit vous n'écoutez pas les gens. C'était protestation continuelle, dans la rue, dans toutes les institutions, pendant 4 ans de gouvernement de Rajoy. Ça a été une protestation unanime. Et je lisais très récemment, même des critiques venant du camp du Parti Populaire. Vous avez un ancien ministre catalan, José Piqué, qui dit « mais ce gouvernement n'a aucun leadership ». Y compris dans le secteur de l'économie, y compris pour construire une véritable politique industrielle en Espagne et avoir des initiatives économiques. Donc la question maintenant, c'est de dire, est-ce que Podemos, avec Izquierda Unida, alors Au passage, c'est intéressant parce que juste avant les élections de 2015, les deux ne pouvaient pas s'encadrer.
On a vu ça dans plein de pays.
Hein. Ils ne pouvaient pas s'encadrer parce que les communistes étaient très méfiants à l'égard de Pablo Iglesias et réciproquement. Et Pablo Iglesias avait fait le pari de réussir à avoir un bon score électoral sans les communistes.
Aujourd'hui,
c'est important parce que aujourd'hui, Pablo Iglesias fait un autre pari. En disant, voilà, on va tenter le tout, pour dépasser le PSOE, parce que c'est ça son objectif, c'est l'intérêt des électeurs espagnols.
On a déjà vu ça dans plein de pays,
des
ruptures d'alliance et des changements d'alliance.
C'est très douteux, parce qu'il a quand même laissé Mariano Rajoy gouverner pendant 5 ans.
Héloïse Ney, vous avez écrit un livre qui s'appelle Podemos, de l'indignation aux élections. Le chapitre suivant, ce serait de l'indignation aux élections, au gouvernement, et ça n'a pas l'air si facile que ça pour Podemos d'imaginer de gouverner.
Alors, je pense que pour que nos éditeurs comprennent bien la situation, et notamment la crise du PSOE, en fait, il faut rappeler quelque chose que nous a pas dit le représentant du PSOE en France, c'est que, en fait, s'il y a une crise de ces deux partis, c'est que c'est le PSOE qui était au pouvoir quand la crise économique a émergé, et c'est le PSOE qui a pris les premières mesures d'austérité politique économique en Espagne. En fait, vous avez mis en avant le fait qu'il y ait des lois sociales qui étaient prises par ce parti, mais c'est surtout les premières coupes budgétaires dans les services publics, la réforme du droit du travail, le fait qu'on mette dans la Constitution un nouvel article en mettant le remboursement de la dette comme priorité. Et donc, bien sûr, la question, c'est un gouvernement pour quoi faire. Et donc, quand les indignés émergent, c'est non seulement pour lutter contre la corruption, mais c'est aussi pour lutter contre ces politiques d'austérité, pour lutter contre le fait qu'on augmente les inégalités sociales. Et donc, Podemos émerge aussi dans cette perspective. Et clairement, le fait... Moi, comment j'ai vu les négociations, c'est principalement que Podemos a mis en avant toutes les contradictions du Parti Socialiste, qui a préféré faire alliance avec Ciudadanos, qui est un parti libéral, pour poursuivre en fait les mêmes politiques économiques qui sont les politiques économiques dominantes aujourd'hui en Europe, et plutôt que de faire alliance avec Podemos pour réellement proposer une alternative qui s'oppose à l'austérité. Et donc,
alors, je pense que c'est ça surtout qui est mis en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, Podemos est en mesure de gouverner, et avec qui?
Alors, la grande question, ça serait de voir, moi je pense que c'est pour ça que là c'est assez stratégique l'alliance qui s'est faite avec Izquierda Unida, c'est de voir dans le rapport de force à gauche. Et donc si l'alliance Unidos Podemos arrive devant le PSOE, bien sûr, dans la configuration actuelle, le bipartisme est en déclin évident, mais il ne s'effondre pas complètement. C'est-à-dire que le Parti Socialiste reste pour l'instant dans les principaux partis, et donc il y aura probablement l'obligation d'un gouvernement de coalition avec le Parti Socialiste si Podemos et Izquierda Unida veulent impulser un gouvernement du changement. Mais je pense que le fait qu'ils arrivent en tête, comme l'annonçait le sondage, c'est vrai qu'il faut être prudent sur les sondages, mais si réellement ils arrivent à dépasser le Parti Socialiste, je pense que ça sera l'occasion de proposer vraiment une feuille de route qui soit celle de lutter contre l'austérité et pas l'accord qui a été fait avec Ciudadanos, qui est tout l'inverse.
Ouais. C'est-à-dire un peu à la mode de ce qu'a tenté Alexis Tsipras en Grèce.
Tout à fait.
Avec quand même le virage à 180 degrés que l'on a pu observer.
Alors, sauf qu'il a été complètement imposé, ce virage à 180 degrés, ça n'a pas été... Vous avez vu comment ça s'est passé, c'est quasiment un coup d'État financier de l'Union européenne contre la Grèce, avec peut-être une différence. C'est vrai que ça ne va pas être simple, si Pablo Iglesias arrive en tête des élections, ça ne va pas être simple non plus, mais il y a peut-être deux différences. Une différence que met souvent en avant Podemos, c'est le fait que la Grèce pèse 2% du PIB de l'Union européenne, l'Espagne c'est 12%, donc ce n'est pas le même poids. Et une deuxième différence, c'est qu'ils seront au moins déjà deux. Surtout ce qu'a montré le cas de la Grèce et l'isolement de Syriza en Europe, où ils ont eu du mal à avoir des alliances. Et je pense que là, la question des alliances européennes avec la Grèce, avec le Portugal, aussi il y a un nouveau gouvernement depuis l'automne dernier, et peut-être avec d'autres gouvernements, c'est clairement la question des alliances entre des forces anti-austérité en Europe, si elles arrivent au gouvernement, qui peut changer la donne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Alors la question des alliances au lendemain de ces élections du 26 juin, elles seront évidemment déterminantes parce que aucun des quatre grands partis n'aura de toute façon la majorité, ça paraît extrêmement peu probable. Alors il faudra faire des alliances et on constate que faire des alliances dans un pays comme l'Espagne, où on n'a pas du tout l'habitude de faire des alliances, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas cette culture comme par exemple l'Europe du Nord ou l'Allemagne où ben voilà, on va faire une grande coalition parce qu'il faut bien arriver à un moment à former un gouvernement. Dans un pays comme l'Espagne, il n'est pas le seul, où on n'a pas du tout cette tradition de coalition, ça paraît quand même un petit peu difficile. Qui veut rebondir
Je crois que c'est une fausse idée. Il n'y a pas de question. C'est mentir que de dire qu'il n'y a pas de tradition de coalition en Espagne. C'est tout à fait le contraire. Et effectivement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grande coalition entre le Parti populaire et le Parti socialiste.
Il y a mais un grand normal. Parti et des tout petits à côté qui sont souvent des partis normal. Régionaux.
Mais c'est normal, parce que la plupart du temps, au niveau des gouvernements régionaux, au niveau des municipalités, comme on le voit notamment depuis un an, avec le basculant de beaucoup de villes vers la gauche, avec Madrid, Barcelone, Valence, Valencia, et beaucoup d'autres villes comme celle-là, il y a eu des coalitions entre effectivement les partis de gauche, ce qui montre d'ailleurs que c'est tout à fait possible et que même par exemple dans la région de Valencia, que moi je connais bien parce que j'ai de la famille là-bas, il est clair que les gouvernements de gauche avec un président socialiste, un président de gouvernement socialiste et soutenu par le PSOE et d'autres partis de gauche, y compris les mouvements proches de Podemos, c'est tout à fait possible. Ce qui ne sera jamais possible parce que c'est rigoureusement impossible et ça sera jamais compris ni par les électeurs ni encore moins par les militants du PSOE, c'est une grande coalition avec le Parti populaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a, en dépit de ce qu'a dit votre intervenant tout à l'heure sur le fait que le PSOE avec Ciudadanos a fait un programme commun avec des mesures libérales, c'est tout à fait faux. Je veux dire, il faut lire les documents, il faut voir exactement ce qui a été proposé. C'est pas du tout des mesures libérales, c'est des mesures de changement de gauche et qui prennent le contre-pied de toutes les politiques faites par le Parti populaire pendant 4 ans au gouvernement. Donc, il est bien évident que quand le Parti populaire est dans l'opposition et que le PSOE est au pouvoir, c'est un déchaînement absolu contre les politiques du Parti socialiste. Et même aujourd'hui encore, c'est le Parti populaire a un peu changé de stratégie parce qu'avant il ne critiquait que le PSOE. Maintenant il focalise son attention comme ils l'ont fait pour la campagne électorale de 2015 sur Podemos. Pourquoi ? Ils l'ont fait avec beaucoup d'intelligence, Mariano Rajoy et ses amis, parce qu'ils ont vu qu'il fallait taper sur Podemos pour les faire monter dans les sondages, les faire monter au niveau électoral et diviser la gauche. C'est vieux comme le monde cette stratégie électorale. Et il continue aujourd'hui. Vous entendez Mariano Rajoy qui tape sur Podemos en disant c'est le bloc des radicaux, etc.
Mais de la même façon, mais la coalition
PP-PSOE est absolument impossible parce que c'est des propositions rigoureusement opposées. Tout à l'heure, on disait
votre discours comme président, comme représentant du Parti socialiste, c'est un discours aussi très pauvre du point de vue d'attractive politique.
De Pedro Sanchez.
Non, en général, Pedro Sanchez, parce que Pedro Sanchez est chaque jour questionné
par tous les partis. Il est attaqué par
tous les
Podemos
et par son propre parti.
Non, ça c'est faux.
Il n'est pas attaqué par son propre parti. En Andalousie, qui fait toujours des critiques.
Non, absolument. Ça c'est un mythe inventé par les journalistes et notamment les journalistes proches du Parti populaire.
Je ne crois pas.
Le PSOE est un parti uni et discipliné. La preuve, il y a quelques jours, il y a eu un meeting. Tous les dirigeants, la présidente d'Andalousie, tous les dirigeants régionaux étaient là. Il y avait même
Felipe González.
On va pas en faire un débat.
Espagnol. On colporte des mensonges sur le Parti Socialiste, c'est normal qu'on réponde.
Xavi Espadet, oui. Quel que soit le gouvernement qui sortira peut-être des urnes le 26 juin prochain, il y aura de toute façon, il sera confronté à une multitude de problèmes, les problèmes liés à l'Europe, à l'austérité, l'application ou non du pacte de stabilité, et puis il devra répondre aux tentations indépendantistes, au moins de la Catalogne et éventuellement du Pays Basque. On en est où des tentations indépendantistes?
On a l'impression que
les Catalans, comme les Basques, mais on va parler davantage des Catalans, ils regardent ça d'un petit peu de loin et disent, on va attendre que finalement tout ça se décante.
Je pense qu'il y a une vraie déconnexion, c'est pour ça en fait qu'il y a cette distance vis-à-vis de la politique espagnole. Je voudrais simplement en fait mettre un antécédent dans le locuteur francophone. L'Espagne ayant été toujours et restant encore aujourd'hui un pays divers, culturellement, linguistiquement et certains diraient même nationalement, la question catalane, le problème catalan, comme disait Ortega y Gasset, traverse les siècles. Hein. Vous avez en fait un conflit Espagne-Catalogne au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe. Au XXe siècle, vous avez 2 déclarations d'indépendance. Et à la fin de la longue nuit du franquisme, l'Espagne s'accorde pour concéder une certaine autonomie hein, sous les pressions basques et catalanes aux régions composant l'Espagne.
Et le Pays Basque, comme la Catalogne, ont beaucoup d'autonomie. Il hein. faut le signaler aux auditeurs.
Oui, enfin, plutôt le Basque plus que le Catalan, puisqu'ils ont compétence en fait pour faire la levée de l'impôt. C'est ce qui est quand même là tout particulier, et pas les Catalans par contre. Il faut savoir aussi en fait que l'Espagne n'est pas un État fédéral. L'Espagne, en fait, l'autonomie des régions est une concession du pouvoir central qu'il peut en tout moment reprendre hein, par dispositif en fait moins doux ou bien en appliquant directement, comme c'était la menace ces derniers temps, de l'article censé concerner la Constitution par rapport à la Catalogne. Tout cela pour dire qu'à l'issue en fait de cette tension démocratique, cette Espagne des autonomies était un point d'arrivée pour une classe politique espagnole. Pour la Catalogne et Pays Basque, ce n'était pas un point d'arrivée, c'était un point de départ. Si. Commence alors, en fait, 20 ans, voire plus, de régionalisme, de bon-à-loi incarné par Convergència Democrática de Catalunya, qui a cautionné pour en fait toutes les grandes réformes, que ce soit en fait l'entrée de l'Union européenne ou d'autres, du Parti socialiste et du Parti populaire. Et lorsque une droite dure, très dure et décomplexée vis-à-vis du franquisme revient au pouvoir et mène une politique de recentralisation de l'État, il y a un changement de mentalité qui va aboutir en Catalogne, qui va aboutir en 2003 à la création d'un chantier pour renouveler le statut d'autonomie pour la Catalogne. Chantier mené en fait par le gouvernement catalan en place à l'époque, une coalition formée par le Parti Socialiste, la gauche républicaine et les écosocialistes en fait.
On va rentrer dans tous ces détails, Xavier Espagnol. Ouais. Ma question c'est comment voient les Catalans ce qui se passe en ce moment? Je sens qu'ils sont très en dehors, ils attendent que ça se décante.
Bon, alors il y a deux aspects en fait principaux qu'il faut signaler. Le premier, c'est que dans les négociations entre PSOE et Podemos, il y a eu quand même en fait cette fameuse ligne rouge du référendum.
Référendum sur l'indépendance de la Catalogne.
Il ne faut pas oublier en fait que Podemos, enfin ces converges confluences, ont obtenu en fait le plus de voix en Catalogne, 25% quand même, qui a donné beaucoup de force et beaucoup d'ascendant en fait à Podemos. Donc, Pablo Iglesias ne pouvait pas ne pas se montrer sensible à une certaine sensibilité multiculturelle.
C'est d'ailleurs pour ça que l'alliance entre le PSOE et Podemos n'était pas possible, car il y avait évidemment la fracture du référendum.
Il y a eu cette fracture qui serait en fait, ce référendum en Catalogne serait extrêmement mal vécu, non seulement par les cadres du Parti Socialiste, mais aussi en fait par la population espagnole, qui est à 108% hostile à cette possibilité, et qui surtout pas ne veut pas que le modèle territorial soit modifié. Donc, vous avez une Espagne, en fait, à deux vitesses. Vous avez cette Catalogne, en fait, qui pousse vers plus d'autonomie. Et d'un côté, en fait, un peuple espagnol, incarné, enfin, deux partis, qui se montrent plutôt hostiles. Podemos, dans ce contexte-là, essaie, en fait, de mener la chèvre le chou. On dit comme ça. Donc, contenter, en fait, son électorat podemiste en Catalogne, qui, lui, sous être forcément indépendantiste, et quand même pour l'exercice du droit à l'autodétermination, qui était reconnu par le PSOE des années 70, hein, le PSOE avant Felipe González. Et de l'autre côté, aussi, essayer en fait de
ménager l'électorat espagnol,
essayer d'occuper ses centres, devenir en fait un parti attrape-tout, comme on dit, qui puisse vraiment avoir des chances de gouverner.
Aurora Minguez, est-ce que la vraie question au lendemain de ces élections, ce sera évidemment si Podemos est en mesure de former un gouvernement, le rapport à l'Europe?
Ça, c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait avec la politique économique? Est-ce qu'on va continuer avec la politique d'austérité? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'on peut mettre, disons, en surgélation les compromis avec Bruxelles? De mettre, disons, un régime, le dettement étatique, aussi les déficits. Ça, c'est la question clé pour moi. C'est pas une question de dire si PP, Podemos, Ciudadanos ou PSOE sont mieux ou pire pour les citoyens. C'est une question de dire qu'est-ce qu'on fait avec notre économie. Est-ce qu'on veut devenir de nouveau souveraine du point de vue de la gestion de finances publiques, ou si on reste toujours citoyen de secondième grade dans cette Europe qui est dominée par les hordes de libéralisme allemand.
Héloïse Ney, c'est évidemment une question que Podemos doit se poser. Si Podemos arrive au pouvoir, ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui, mais ce sera évidemment une question centrale si c'est le cas, quel sera le rapport à l'Europe, ce que l'on peut en dire aujourd'hui?
Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment la question fondamentale qui se pose. Et d'ailleurs, c'est par hasard si Podemos, les premières élections auxquelles ils ont été, c'est les élections européennes en 2014, parce qu'ils ont bien conscience que la question, elle n'est pas seulement espagnole, mais elle est européenne. Et le fait, par exemple, que l'Europe, avec Merkel, les principaux dirigeants européens, aient autant bloqué la situation en Grèce en disant à Syriza, il n'y a aucune concession qui est possible, c'était un message non seulement aux Grecs, mais c'était aussi un message aux Espagnols, en disant, avec Podemos, ça ne sera pas possible non plus. Et donc, je pense qu'effectivement, et par exemple, c'est intéressant de voir que Pablo Iglesias a été soutenir Alexis Tsipras lors des campagnes en Grèce, et inversement, il y a des gens du Parti Populaire qui ont été soutenir l'autre candidat de droite. Et donc, je pense que c'est vraiment à l'échelle européenne que ça se pose. Et là, en fait, la stratégie de Podemos, elle est proche de celle de Syriza. C'est-à-dire qu'ils ont des contacts très, très étroits avec Syriza. Et la stratégie, en fait, c'est de peser dans le rapport de force, dans la négociation, de changer le rapport de force pour imposer d'autres types de politiques qui ne soient pas des politiques d'austérité. Et donc, de pouvoir, du coup, investir davantage de ressources publiques dans les politiques sociales qui ont été fortement délaissées par les précédents gouvernements. Donc, c'est clairement la même stratégie, en fait, que celle de Syriza, mais en disant, si on est plusieurs gouvernements à le porter et des quand même des pays qui pèsent beaucoup plus comme l'Espagne, alors on pourra avoir une influence sur ce rapport de force. C'est clairement la stratégie de Podemos.
Alors, on arrive au terme de cette émission. On a compris qu'il n'y aura pas de grande coalition, et José Rojas nous l'explique, entre le Parti Populaire et le PSOE, pour des raisons historiques. On comprend qu'il y aura difficilement une alliance entre le PSOE et Podemos sur la question catalane et la question des indépendantistes, des indépendances. Aurora Minguez, est-ce que l'Espagne est appelée à être un pays éternellement ingouvernable?
Disons-nous que, bon, dernièrement, on n'a pas eu beaucoup de chance avec des grands politiciens, et surtout, on a fait éventuellement des compromis avec l'Europe qui maintenant, ont causé beaucoup de souffrances parmi les gens. On ne parlait pas tellement de la misère en Espagne, de ces 25% des gens qui ont vraiment des problèmes de finir leur mois. On ne parlait plus des expulsions forcées.
Alors, c'est vrai aussi, on le disait en début d'émission, c'est l'Europe qui a contribué largement à ce que l'Espagne devienne ce pays moderne et avec un niveau de vie considérable.
Mais c'était l'Europe avant la globalisation, avant Merkel, avant les...
Et en même temps, c'est pas l'Europe qui a provoqué cette folie immobilière non plus.
Non, ça, sur ça, nous sommes responsables, ça c'est clair.
Alors, ingouvernable ou pas, l'Espagne au lendemain du 26 juin, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin.
Je pense qu'il y a des similitudes avec l'Espagne de la fin du 19e siècle, l'Espagne de 88. C'est une crise morale, c'est une crise sociale, c'est une crise politique. Et j'aurais envie d'avoir des politiques et des politiciens en Espagne qui donnent de l'espoir. Et malheureusement, je ne trouve personne.
Merci, c'est le mot de la fin. Il est un peu triste, mais c'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation merci. Victor Ouvrard. Merci à France Bleu Touraine d'avoir accueilli Héloïse Ney dans ses murs, qui a publié récemment un livre, Podemos, de l'indignation aux élections, aux éditions des Petits Matins. Pour écouter cette émission RFI.fr ou les applis mobiles, mais gratuites de RFI. Plein d'infos sur nos invités sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI. On reste en contact, bien sûr, via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Madrid, Barcelone, Paris, ailleurs dans le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.